Tout d'abord, il faut que j'apporte une précision sur l'intitulé de cette table ronde. Si vous avez lu le programme, vous avez vu que c'était « Lire et éditer ». Bon. Or, alors, éditer, c'était à l'époque lointaine où un des frères Ruffel, David pour ne pas le nommer, qui édite les œuvres de Volodine de chez Verdier, devait être présent. Bon, et puis, comme vous savez, les frères Ruffel, c'est pas comme les Blues Brothers qui sont toujours là. Hein. Bon, Lionel, vous savez qu'il a un alibi en or. Donc, aucun
des. Oui, c'est pas mal non plus, David, il part à Casablanca.
Oui, c'est pas mal non plus, d'accord. Bon, bref, on ne va pas parler pour le moment d'éditer l'œuvre de Volodine, on va parler de la lire. Et moi, donc, pour l'occasion, je m'appelle David. Je m'appelle Lionel Ruffel, puisque c'était Lionel qui était censé animer cette table ronde. Et donc, je vais faire de mon mieux en improvisant un petit peu. Voilà, donc j'ai le plaisir de vous présenter Nicole Caligaris et Arnaud Bertina, qui tous les deux, à des titres divers, ont déclaré à différentes occasions qu'ils étaient des lecteurs de Volodine. Alors on ne va pas jusqu'à dire qu'il y a des influences de Volodine, j'en sais rien, ils vont s'expliquer là-dessus, mais que leurs œuvres à différents titres peut-être étaient en dialogue en quelque sorte avec les textes de Volodine. Et donc on leur a demandé de préparer quelques mots pour nous expliquer quelle est la relation que leur travail d'écriture entretient avec le travail de Volodine. Nicole, peut-être ?
Il faut que je commence.
Arnaud, enfin, non, faites ça à Amstram-Gram entre vous, comme vous voulez.
Non, mais je veux bien commencer, je ne veux pas me dérober, mais c'est juste parce que je me suis fait piéger, puisqu'on m'a dit de préparer quelques mots. Le problème, c'est que ça a été prolifique, et donc voilà, donc il faut me couper.
D'accord,
en fait.
Très bien. Au bout de combien de temps je coupe ?
Ah ben, je ne sais pas, on a eu 10 minutes ou un truc comme ça.
D'accord, non, mais on a toute la nuit, hein, donc c'est pour ça. Non, c'est pour ça que je proposais du café pour tenir.
Ah oui, du café, volontiers.
Je peux amener le calva aussi.
Bon, alors bon, moi je suis repartie de 1985. Mm-hmm. 1985, c'était l'année minuit. Et voilà, donc j'ai essayé de me rappeler un peu qu'est-ce qu'on avait à l'esprit, qu'est-ce qu'on, peut-être pas lisait, mais de quoi on parlait en 1985. Et voilà, il y avait Hervé Guibert, par exemple, qui n'était, je sais pas s'il était déjà chez Gallimard ou encore chez Minuit. Et sinon, vraiment, c'était les auteurs Minuit. Une sorte de littérature comme ça au second degré qui moi me faisait l'effet de rétracter le cosmos, quoi, de faire une fermeture, et je me retrouvais finalement sur une planète où il n'y avait pas d'ailleurs, il n'y avait que la Terre, et là-dedans déboule bébé Volodine à six pattes, hein, avec du venin plein les poches, un cri saloperie vivante, dont d'ailleurs le texte lui-même disait qu'il se déplaçait par des rêves, et que c'était difficile de résoudre les rêves dans les murs, et c'est exactement l'effet que ça m'a fait. La lecture de Volodine. Alors en plus, il a débarqué dans une collection qui était une collection magnifique, sur laquelle les littéraires grand genre, même en se pinçant le nez, n'auraient pas jeté un œil, puisque c'était une collection de SF. Et voilà. Et donc moi, cette lecture-là, ça m'a collé une fringale du tonnerre, quoi. Et ce que je voudrais, voilà, ce sur quoi j'ai un peu réfléchi, c'est d'essayer de voir, de vous proposer le tapis qui est le mien et qui a pour motif l'aile Volodine, car Volodine a une aile, bien sûr. Et peut-être la première chose qui m'a vraiment passionnée, c'est... alors, je vais emprunter une expression, les identités fugitives. Alors les identités fugitives, c'est un poète et écrivain marocain qui s'appelle Abdel Fattah Kilito, et qui a travaillé sur ce qu'on appelle les séances. Alors c'est un genre littéraire qui est un genre complètement mixte, quoi, où on peut aussi bien faire du poème que de la narration, du grivois, du lyrique, etc. C'est un genre qui permet toutes ces compositions ensemble. Et c'est aussi une forme qui est une de mes matrices, et qui est la forme, c'est pour ça que ça s'appelle les séances d'ailleurs, une sorte de cercle de narration. C'est-à-dire qu'on a un narrateur qui endosse un récit, et puis qui vient être remplacé, ou alors à l'intérieur de son récit, on a un autre narrateur qui va raconter quelque chose d'autre qui se trouve enchâssé dans le récit. Voilà, nous on connaît ça avec les Mille et une Nuits. Moi, j'ai vraiment, je suis vraiment tombée là-dedans avec le manuscrit trouvé à Saragosse, ou avec Melmoth, le grand Melmoth, voilà. Et ça, je retrouve ça avec une puissance de composition décuplée chez Volodine. Et voilà, donc ça a été un des éléments qui m'ont passionnée. Alors, après, pourquoi ça me passionne et pourquoi ça fait toujours partie de mon... de ce que je travaille, quoi, enfin de ce que j'essaie de rechercher, c'est que il y a une représentation d'un certain état de conscience qui n'est plus dans une représentation d'un sujet continu, d'une identité unique. On est dans une espèce de destruction du centre, et ça aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles vraiment ça me passionne de travailler, à partir d'un Polonais qui s'appelle, alors là c'est là que les emmerdements commencent, qui s'appelle Stanislas Przybylski. Et c'est il est publié chez José Corti par Claude Lecombier d'ailleurs, et c'est dans Messe des Morts. Et dans Messe des Morts, il raconte le divorce de l'âme et du corps. Et voilà, c'est un texte très très frénétique, très beau, très romantique, etc. Et à un moment, il dit que le centre de ses forces à céder, je crois que j'ai repris le truc pour vous citer proprement quand même, mais il faudrait que je m'y retrouve dans mon papier. Voilà, ça doit être par là. Il dit, voilà. Quelque chose s'est perdu, le mystique point d'oscillation où prennent appui toutes mes forces. Il a été relevé par 1000 autres centres de force et l'unicité s'est décomposée en 1000 fragments éclatés. Voilà, c'est-à-dire que le pouvoir, enfin, je cherche quelque chose de cet ordre, et je trouve ce travail-là dans la composition de Volodine, c'est-à-dire que on n'est pas sur un pouvoir central, même la dictature a été relevée par 1000 autres foyers de force, et donc on pourrait même imaginer une conscience qui se dessine sous cette forme comme ça polynucléaire, et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup intéressée, et voilà, ça fait partie des choses que je traverse. Voilà, donc ça va là, mais j'essaie d'avancer un peu, voilà. Et puis aussi le rapport à l'opacité, à la difficulté à la difficulté peut-être prétendue de récits qui ne soient pas limpides. Et ça m'intéresse beaucoup, parce que le fait que l'histoire qu'on est en train de lire se dérobe, qu'elle résiste à cette limpidité, à sa résolution, justement à l'intérieur d'une forme stable et d'un pouvoir, ça aussi ça m'intéresse beaucoup. Et je trouve que cette forme des enchâssements, espèce de dérobade du narrateur, de l'auteur qui est, non pas peut-être le créateur, mais l'inventeur de personnages qui sont des auteurs, ça place dans un rapport au récit, justement, dans un rapport de l'ordre de l'invention, c'est-à-dire qu'il va bien falloir que je prenne la responsabilité de faire mon propre chemin de lecture, puisque de toute évidence, ce monde volodinien est absolument insaisissable, enfin incompréhensible au sens presque physique du terme pour moi. Et donc ça me place dans cette espèce de décision et d'orientation de lecture dans le texte. Et toute la question de l'interprétation du lecteur se trouve posée sous la responsabilité pour le lecteur d'inventer son texte, quoi. Et voilà, ça aussi, ça fait partie des choses qui me passionnent. Et puis aussi le rapport avec le fait que tout ça, c'est des identités fugitives, c'est-à-dire qu'on est dans cette dynamique, dans cette espèce de force que peut représenter la fuite. Et voilà, je trouve qu'il y a beaucoup à prendre dans cette forme-là. Voilà. Alors, après, il y a d'autres choses. Ah oui, le pouvoir des noms peut-être là-dedans, c'est-à-dire les identités fugitives, et en même temps, on a des sortes de flammes, au sens, dans tous les sens du mot flamme, qui sont des noms. Et les noms, c'est des lieux, c'est des époques, c'est donc, il suffit de nommer pour donner au lecteur tout un contexte historique, géographique. Les noms, c'est des peuples, c'est des personnes et c'est des voix. Voilà. Et ça, voilà, c'est aussi ma sensibilité, enfin, l'espèce de pouvoir d'évocation et l'invocation même des noms, c'est un voyage en soi, quoi. C'est une poétique déjà à la fois minimale, voilà, il suffit du nom, et à la fois d'une complexité incroyable, puisque le nom même porte une culture d'une très grande épaisseur, quoi, d'une très grande richesse. On passe au. Alors, après, autre coïncidence avec des figures de mon tapis, c'est l'empreinte épique. On est sur quelque chose que moi je lis comme de l'épopée, sauf que c'est une épopée comme d'après la mort du roi Arthur. C'est-à-dire qu'on se place plus sur la concentration, sur le pouvoir de tête. Le roi, c'est la terre, et effectivement, quand c'est le chaos, ça veut dire qu'il faut sauver le roi. On a cette espèce de fusion comme ça. C'est bon, quoi. Le roi, c'est fait, il est mort. Et maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas croire que même après, même le roi mort, eh bien... les forces peut-être continuent et se trouvent peut-être dans le chaos même. Et il y a quelque chose de cette épopée-là où chaque héros, alors qui n'est pas un héros de la victoire, mais qui est un héros des faits, un héros de la défaite, mais dont la défaite peut-être est la propre ressource, et bien chaque héros contribue de façon extrêmement partielle, opaque, on comprend mal comment, mais est une partie d'un récit commun, d'une version qui d'une manière ou d'une autre sera commune, parce que c'est comme ça. Et ça aussi, c'est quelque chose de politiquement très puissant dans ce que je lis de l'œuvre de Volodine. Alors maintenant, moi, ça a complètement été embarqué dans une autre épopée, une épopée des années 50, qui est « Les seigneurs de l'instrumentalité », de Gorwenor Smith. Alors voilà, je ne sais pas du tout si vous êtes des familiers ici avec Gorwenor Smith. Voilà. Alors là, magnifique, génial, etc. Et où on retrouve, comme ça, bah, par exemple, il y a des personnages qui sont des animaux, mais qui sont des animaux, voilà, des rois animaux. Ils ont des partenaires animaux, ils ont des partenaires qui sont des chats, etc. Bon, voilà. Par exemple aussi, on retrouve du vocabulaire tout à fait charmant, comme le suruquet, qui est vraiment, voilà, auquel on ne peut pas résister. Et bien, chez Gordwener Smith, par exemple, on retrouve, alors en traduction, là, on retrouve le terme cranché, avec le fil à crancher, par exemple, et ça aussi, ça place devant une espèce d'interprétation poétique du monde qui pourrait être le nôtre, qui est juste un tout petit peu mis en étranger, en étrangeté par rapport au nôtre, et qui fait comme ça cette ouverture vers, voilà, vers des forces possibles, vers des ailleurs qui sont ici même et qui peuvent être travaillées, quoi. Donc j'ai croisé Gordwener Smith, donc j'ai embarqué avec les sondeurs et les seigneurs de l'instrumentalité, et j'ai été encore plus puissamment emportée dans cette espèce de saga comme ça à multiples personnages qui ont des durées de vie dignes de Mathusalem chez Volodine. Et puis la quête, du coup, l'épopée même, devient l'histoire de l'épopée, c'est-à-dire qu'elle agit, mais elle agit comme forme, et elle agit comme trace. Et ça aussi, ça, c'est vraiment, je trouve, quelque chose de passionnant dans cette littérature-là, c'est de voir la construction du texte par persistance, par écho, par souvenir. Mais quelque chose de cette mémoire-là, de la mémoire des groupes politiques, de la mémoire de ce qui aura été tenté pour l'action et qui peut-être aura été défait, mais pas si vainement qu'on pourrait le croire, parce que cette empreinte-là, ben voilà, elle est transmise aussi. Donc c'est une sorte d'épopée gauchy qui reste... Comme passage d'un héritage. Et voilà, je suis sensible vraiment à ça. Bon, alors après, il y avait le récit flottant. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un travail sur la logique qui, là aussi, pour moi, vraiment, est complètement passionnant. C'est-à-dire, il paraît que le boulot des poètes, c'est de faire sauter le principe de non-exclusion des contraires. Et si on se lance dans cette logique-là, c'est-à-dire que si on commence à travailler la logique en n'excluant pas la conjugaison ou la composition des incompatibles, qu'est-ce qu'on ouvre ? Qu'est-ce qu'on essaye de construire comme possibilité de représentation du monde, de représentation de notre carte mentale et de notre grille de lecture, quoi, de nos cadres de lecture. Et je trouve que peut-être c'est la justesse du travail littéraire que de faire bouger les cadres de l'imaginaire, parce que c'est par là que peut-être peuvent commencer les ressources et les forces, et peut-être que c'est par là aussi que peuvent commencer les constructions nouvelles, tout ce qui est de l'ordre du nouveau. Donc ça aussi c'est quelque chose la littérature de Volodine m'engage. Et puis la méfiance envers la leçon de l'histoire, la leçon de la vérité, la leçon du réalisme. Et là on parlait tout à l'heure de Gerd Neumann, un poète et écrivain est-allemand, qui a comme ça un travail sur l'affirmation qui entre en écho avec le travail sur l'affirmation que je trouve dans les œuvres de Volodine. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est énoncé, qui est gauchy, il se maîtrisa, il fit semblant de se maîtriser. Il y a toujours une espèce de scrupule, mais qu'est-ce que c'est qu'affirmer? Et est-ce qu'on peut conduire cette espèce de mise en doute, de précaution sur le pouvoir, pouvoir assez tyrannique du terme, justement, du terme qui clôt, qui englobe. Sur le plan vraiment de la logique, et là aussi, il y a vraiment quelque chose à dire. Il y a une méfiance envers la netteté, méfiance envers tout ce qui est assis. Et du coup, on peut avoir du nostalgique et du comique composés ensemble. On peut avoir du chamanisme évoqué avec le matérialisme dialectique. On peut avoir on peut avoir du trivial qui vient faire cette espèce d'effet de ping-pong sur des passages qui sont extrêmement lyriques, dans lesquels on s'embarque très musicalement, et eh ben non, on n'ira pas atterrir là, on ira, tchac, coupée d'une redescente triviale comme ça. Voilà, il y a quelque chose qui fait une grande énergie dans cette exploration d'une logique qui cherche à ne pas exclure les contraires. Et puis, bon, voilà. Et une fois qu'il y a ça, c'est-à-dire l'utopie qui est énoncée-dénoncée, et elle est énoncée-dénoncée dans le même mouvement, une fois qu'on en est là, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi, de quoi on peut s'occuper en littérature? Voilà, moi c'est la question que je me pose, quoi, de quoi on peut s'occuper finalement. Peut-être qu'on peut s'occuper de ce qu'est l'expérience d'écrire, et ce qui m'intéresse aussi, ce qui m'émeut. Ce qui me touche vraiment profondément, c'est que je lis dans certains passages des récits de Volodine le cryptage de l'expérience d'écrire. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu qui de temps en temps vient faire intrusion et perce comme ça le tissu du récit par les multiples personnages qui sont en train de raconter. Et qu'est-ce que c'est aussi que certains moments où on est en train de lire ce qui va être la bifurcation de l'écriture. Tiens, j'ai peut-être passé par là. Non, finalement, ça marchera par là. Ou alors, en train de lire ce qui peut-être est pensé du rapport difficile avec le destinataire du récit. Et peut-être que le destinataire du récit, c'est le lecteur. Mais alors, le destinataire est toujours dans un jeu extrêmement paradoxal. Il est à la fois commanditaire, à la fois torsionnaire. Et là, c'est quelque chose que je retrouve chez Beckett dans Commencer. On est engagé physiquement dans un duo entre un corps et son bourreau. Et puis le bourreau, c'est l'écriture. Et puis le bourreau, c'est le lecteur. Et puis le bourreau, c'est soi-même. Et le texte raconte le temps à tenir, les parties, il y a trois parties. Sont longues, etc. Et je retrouve et ça, et enfin, ça, encore une fois, c'est vraiment très émouvant pour la lectrice que je suis. Et du coup, la langue se dérobe pour une autre raison cette fois. Il y a de l'évasif là-dedans parce que c'est vous êtes machin, ou alors que vous pensez quoi, ou je sais pas quoi. Oh, moi. Espèce de résolution en soupir du langage, tellement on s'en méfie, ou tellement. Souffler en dessous aussi. Et puis voilà, ça sera pas long, comme disent nos amis de Montréal. L'internement verbal, voilà, ça aussi, voilà, ça c'est quelque chose qui est un univers très fort pour moi. La rhétorique des systèmes avec leurs camisoles. Et là, ça fait écho chez moi à deux grands monuments. Un roman de Vladimir Makanin, Underground, ou Un héros de notre temps, citation, etc., où il écrit ça et qui est vraiment, je trouve, encore une fois, un des ressorts dans ce que je lis de Volodine, pour damer le pion au médecin, en remplacement de mes pensées confisquées, j'ai tenté de reconquérir un terrain moins gardé, la sensualité primitive. Je voulais sentir, surmonter la dilution de mon sang, avoir du désir, puisqu'il ne m'était plus permis de penser. Désirer est devenu mon souci quotidien, mon travail de tous les instants. Je trouve qu'on lit ça dans le travail de Volodine. C'est... Bien sûr, il y a un énorme travail sur justement cette rhétorique qui fait cellule, mais à chaque fois dans la cellule, il y a un corps. Il y a un corps qui est présent dans sa respiration, qui est présent dans la chair qui s'en est pris plein, et qui est dans cette expérience de sentir au moins en dernier, et d'essayer peut-être de sauver ça, de sauver le désir. Voilà. Et puis, en balance, comme ça, faisant partie de cette même de ce même passionnant travail sur la rhétorique qui fait le monde fictif, c'est le magistral grec Haris Alexandrou, avec un roman colossal qui s'appelle La Caisse. Et où c'est ça? C'est-à-dire que tout n'est que rhétorique. Alors, c'est un groupe de soldats qui sont désignés volontaires pour transporter une caisse dans laquelle il y a le vide. La langue est vide. Leur itinéraire est complètement falsifié. Ils changent tous les instants, etc. Rien ne justifie. Il y a aucun sol. Voilà, il y a aucun sol sur quoi poser quelque chose d'un temps soit peu stable sur notre santé mentale et notre façon de lire le monde. Et là aussi, je trouve cette espèce de mouvement de faux dans les romans de Volodine. Et enfin, voilà, j'ai fait la version brève, qui dure 15 minutes. Et enfin, voilà, qui me touche aussi, qui m'émeut profondément, l'opéra Murmure. Alors là, c'est plutôt une espèce de contact avec une position de Michelet, de Jules Michelet, qui dit que l'historien, c'est comme le curateur des morts, c'est-à-dire que les morts qui n'ont pas de prestige, les morts qui n'ont pas de proches, les morts seuls, quoi, anodins, laissent au moins un minimum, c'est leur mémoire, et que cette mémoire-là, quelqu'un doit en prendre soin et la mettre en valeur et la transmettre, et il dit que c'est ça le boulot de l'historien. Et il y a ça aussi, je trouve, dans la poétique de Volodine. La sortie, c'est le chant. Et le chant, c'est peut-être ça, peut-être que c'est quelque chose qui évoque le chamanisme, mais moi je trouve que le chamanisme reste aussi une empreinte, reste du vocabulaire, parce que le monde ne fait pas signe, je trouve. Et je trouve qu'il ne se révèle pas le monde comme langage chez Volodine. Mais il y a le retour vers la voix des morts et le fait d'écrire avec dans sa poitrine ces multiples voix qui est une façon de chanter des voix disparues. Et il y a beaucoup de références au théâtre et à l'opéra et je ne sais pas, enfin je sans doute que je ne connais pas tout et certainement, mais en tout cas, je ne connais pas de répertoire théâtral et j'ai le sentiment, du coup, que chaque pièce, chaque roman, je veux dire, chaque élément de l'œuvre de Volodine est à la fois une scène, un théâtre en soi, voilà, où vont s'agiter les forces puissantes de voix théâtrale et à la fois une partie de l'ensemble qui est une sorte de mouvement d'opéra très vaste. Et ça m'amène à quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Alors, c'est des récits au plan anthropologique. On s'est débarrassé de la psychologie, là. On a arrêté, enfin, avec cette psychanalyse, là, sur laquelle je ne vais pas m'étendre maintenant parce que ce n'est pas une bonne période pour dire ça, mais bon, qui nous a quand même un peu bassinés pendant pas mal de temps. Et maintenant, avec vous, Odile, on peut entrer dans une question anthropologique du récit. Et voilà, ça je trouve que c'est un niveau de travail littéraire qui est aussi passionnant. Et du coup, le dernier point de contact, c'est un texte de Caen, de Goulax, qui est Abraham Terts, qui s'appelle Une voix dans le cœur, où on a cet homme qui est dans cette espèce de camp terrible, etc., et qui écrit des lettres à sa femme qui sont vraiment, enfin voilà, à la fois une grande richesse, un grand intérêt, poignante, bref, grande lucidité, et traverse comme ça ses lettres, mais vraiment comme une espèce de son là qui passe comme ça, des propos comme des brèves de comptoir, si vous voulez, sauf que c'est pas des brèves de comptoir, c'est ce que disent les gens dans le camp. Il y a pas d'énonciateur, il y a rien, c'est juste ses voix et les propos collectifs, cette espèce de récit collectif qui est tissé comme par une voix lead, mais qui est composé aussi de toutes ces voix qui traversent et qui animent ce récit-là. Et donc Volodine fait référence à ce chant qui n'est pas vraiment un chant, qui est une espèce de théâtre chanté, mais extrêmement pur, qui est le sori. Alors là, je ne sais pas du tout prononcer cette chose-là, cet art-là, mais qui a l'air, parce qu'évidemment je ne comprends pas qu'il y ait un chant coréen, et qui est un chant coréen qui est celui des gens pour lesquels la société n'a aucun respect, et qui est comme ça un chant conduit par une voix qui a l'air, d'après ce que j'ai pu voir sur YouTube, mais comme je ne comprends pas ce que ça dit, mais on imagine que c'est comme une incarnation là, très très rapide, dans les multiples voix qui sont posées à plusieurs endroits du corps, hein, de la chanteuse ou du chanteur, moi j'ai vu des femmes, on a l'impression que c'est une sorte de geste, hein, de chant épique, qui, par la seule énergie vocale, va évoquer, donner les personnages, amener à la présence de l'auditoire les personnages. Et voilà, bah finalement, voilà, je me suis dit, c'est comme ça que je lis les textes de Volodine. Et j'ai duré 30 minutes.
Merci déjà de cette... C'est un ensemble de propositions d'une extraordinaire richesse. Et ne croyez pas vous en tirer comme ça. Vous restez encore quelques jours là, parce que moi j'aurai des questions. Mais bon, on va donner la parole à Arnaud Bertina, peut-être également pour lui demander, puisque c'est par là que Nicole Caligaris a commencé, peut-être par quel texte vous êtes entré la première fois dans l'œuvre de Volodine. Mais je crois que vous avez aussi préparé vos 60 pages.
Non, non, c'est autrement moins ambitieux. Et puis surtout, je ne vais pas faire du tout œuvre volodinienne comme Nicole, qui a inventé comme ça plein d'auteurs, plein de livres et tout. Non, c'est beaucoup plus modeste. En fait, moi, je me suis contenté de répondre à ce que Lionel me proposait. C'était juste de dire, voilà, par quel biais j'ai découvert ou par quel biais je suis entré dans l'œuvre de Volodine. Donc c'est vraiment très court, c'est pas du tout un balayage comme ça de tout ce qui peut m'intéresser dans ces livres. Et je voudrais juste avant m'excuser, parce que je suis arrivé tout à l'heure et je pars demain matin, et c'est vraiment pas parce que l'ensemble du colloque ne m'intéresse pas, loin de là, c'est juste que voilà, j'étais coincé dans mon emploi du temps. Mais voilà, donc c'est aussi c'est compliqué pour nous, je pense pour tous les deux, de prendre la parole alors que déjà beaucoup de choses ont pu être dites. Et là, je vais faire quelque chose que je n'aime pas trop, c'est je vais lire en fait ce que j'ai écrit parce que c'est en fait un tissu de citations et donc je peux pas les réinventer comme ça.
Vous avez inventé, bien entendu.
Si seulement. En juin 2009, je me suis occupé d'un colloque consacré à Malcolm Lowry, au cours duquel justement Nicole a pris la parole. Et dans le texte que j'ai ensuite écrit pour le volume des Actes, j'ai voulu pointer du doigt ce qui m'a fasciné en premier lieu dans Sous le volcan. Par quel trou de souris je suis entré au cœur du livre, dans ce qui est devenu pour moi le cœur du livre, en même temps que le cœur de la détresse du consul. Il s'agit d'une scène qui est racontée deux fois dans le roman, la première fois par le consul au milieu du chapitre 3 et par lui encore, mais dans une lettre reproduite dans le chapitre 12, une lettre qu'Yvonne n'aura jamais reçue. Citation. Et puis, te souviens-tu, très tôt, le matin suivant, elle venait de partir pour le Canada, tu avais descendu toi-même l'une de ses valises mais ne l'avais pas accompagnée à la gare. Tu étais assis dans le bar de l'hôtel à boire un mezcal glacé qui te tenait frais à l'estomac, et tu n'arrêtais pas d'avaler des pépins de citron quand soudain ce type à la gueule de bourreau est entré de la rue, tirant derrière lui deux petits fans, hurlant de terreur vers le fond de la cuisine. Et plus tard, tu as entendu les cris poussés par les bêtes, sans doute au moment où on les égorgeait, et tu t'es dit « Allez, mieux vaut ne pas te rappeler ce que tu t'es dit ». Et dans un autre roman de Malcolm Lowry, « Sombre comme la tombe où repose mon ami », il y a une reprise de cette scène-là et qui en français sonne de manière absolument phénoménale. « Ensuite les mescales, ensuite les fans assassinés ». Je rapproche cette scène, un passage d'Ultramarine, qui est le premier roman de Lowry, celui au cours duquel tout l'équipage s'émeut de ce que le pigeon de Norman, qui est un des marins, est en train de se noyer. Quand il cesse de se débattre dans les eaux du port et qu'il coule, le narrateur écrit « et il faut alors entendre Dana Elliott, le personnage, décrire son propre ressenti. Citation. « Un cauchemar, toute une éternité d'horreur. » Ces paroles pourraient paraître un brin exagéré pour saluer la disparition d'un foutu zozio, comme dit le chef Stewart, un canari, comme dit le quartier-maître. Elles doivent en fait au contraire être perçues comme la vraie faille des personnages de Laurie et de Laurie lui-même. Une troisième scène doit être rapprochée de ces deux-là, qui se trouve dans une nouvelle de Malcolm Laurie encore, dans « Éléphant et Colisée ». Une nouvelle qui se trouve donc dans le recueil « Écoute notre voix au Seigneur ». Kenneth Drumgold Cosnahan retrouve au zoo du parc de la Villa Borghese l'éléphant qu'il a connu lors de son retour en Europe à bord d'un cargo. Citation. Pour Cosnahan, cette sorte d'animisme qui lui faisait attribuer telle ou telle qualité à un éléphant ne se fondait pas sur le préjugé, mais bien sur une expérience personnelle. Mais pour entendre ces choses, ajoute le narrateur, peut-être fallait-il avoir aimé un éléphant, dans une certaine mesure, plus que soi-même. Peut-être fallait-il, comme Cosnahan l'avait fait un jour, avoir vécu dans l'atmosphère même d'un éléphant prisonnier. Je pourrais multiplier les exemples, mais ça n'est pas le lieu. Je pourrais aussi multiplier les citations de Volodine qui me semblent dialoguer avec les passages que je viens de citer. Je n'en retiendrai qu'un, qui est extrait de « Des anges mineurs ». Citation. Sur le visage des éléphants, il y a d'atroces blessures, la pluie torrentielle les lave, je pense qu'on peut parler de visage quand on éprouve une vive sympathie pour ces bêtes, et c'est mon cas, et quand je dis « je », ici, je pense autant à Julie Rorschach qu'à moi-même, la pluie lave à gros bouillons ce qui saigne. Pourquoi cette digression sur Malcolm Laurie ? Parce que je suis entré dans l'œuvre d'Antoine Volodine par le même trou de souris, non pas tant la question de l'animal, que je crois Jean-Bernard Vray doit commenter... dimanche, que celle de la vie humiliée, de la fragilité écrasée, qui pourrait être commune à l'animal sous la coupe de l'homme, comme à l'homme sous la coupe de l'homme. Quand j'ai eu reposé Lisbonne dernière marge, qui est pour le coup donc le premier des romans d'Antoine Volodine que j'ai lu, mais que j'ai lu quand j'avais 23 ou 24 ans, donc bien après en fait qu'il soit paru, je me suis demandé ce qui était en amont de ce livre sublime. Contre quel bloc, pour citer Deleuze, Volodine était-il adossé pour déplier un monde pareil ? Quelle vision le hante ? J'ai répondu à cette question au moyen des mêmes mots. La vie humiliée, la fragilité écrasée, la vie qui s'expose en rêvant et qui est immédiatement écrasée, humiliée. Du coup, ces livres occupent la même place dans mon espace mental. Ces livres-là, ou ces œuvres agglutinées en un bloc noir, dense, impénétrable, me saisissent. Je les trouve poignantes, mais poignantes au-delà de toute sensiblerie, c'est-à-dire quand la sensibilité, qu'on dit souvent être la qualité de base des artistes, naît en fait de l'effroi, de visions qui terrifient, qui révulsent. Par ce biais-là, l'œuvre d'Antoine Volodine, elle m'est profondément familière, car je me sens comme lui effrayé par l'écrasement du rêve, par la solitude du révolutionnaire qu'on vient assassiner dans sa cellule. Les questions idéologiques, notamment celles de la pragmatique révolutionnaire, elles peuvent être mises un temps seulement, entre parenthèses. Cet écrasement de la vie et du rêve me serre le cœur au sens fort. Toute question d'ordre intellectuel ou littéraire étant temporairement écartée, sur par exemple l'inventivité formelle qui est fascinante dans ces livres, c'est ce point-là qui a décidé de ma fascination pour l'œuvre de Volodine. Donc c'est vraiment... bien avant de commencer ensuite à réfléchir et surtout bien avant de le lire en écrivain. C'est-à-dire bien avant de me demander, tiens voilà, je suis face à une boîte à outils, qu'est-ce que je peux faire de cette boîte à outils avec tout ce qui s'y trouve, il y a tellement de choses. Bien avant de me demander tout ça, je suis d'abord, j'ai le cœur serré. Ça fait peut-être niais de le dire, mais voilà, c'est comme ça que je le reçois. Ensuite, dans un second temps, et ça recoupe des éléments que tu as déjà pu dire, dans un second temps, il y a évidemment la question politique qui me saisit aussi. Et moi, si je dois parler un tout petit peu de moi, en fait, j'ai le grand déclencheur, moi, dans mon parcours pour arriver jusqu'à l'écriture de mon premier roman, ça a été la lecture, bon, dans un premier temps, entendre des textes lus de Beckett par Pierre Chabert, et ensuite découvrir les livres de François Bon. Et en venant ici, en fait, je me disais que François Bon et Antoine Volodine, qui ont commencé à publier à peu près au même moment, sont les deux grands écrivains actuellement de l'enfermement. Simplement, la politique, c'est étonnant parce que la politique est très présente, mais sous deux formes totalement différentes. C'est-à-dire que chez Volodine, elle a à voir directement avec l'idéologie, alors que chez François Bon, pas du tout. Et pourtant, Dieu sait si la question politique est évidemment au cœur du travail de François Bon, mais absolument pas par son versant idéologique. Et c'est assez étonnant, je trouve, pour le coup, de constater que ces deux auteurs-là ont très vite, voire dès le début, été publiés par les éditions de Minuit, parce que c'est comme si Jérôme Lindon, en fait, de l'intérieur, après avoir pendant un temps promu des auteurs qui, justement, avaient tendance à, disons, pour aller très vite, à écarter la question idéologique, tout d'un coup, il publiait une deuxième génération d'auteurs et qui au contraire, la reposait, mais même pas discrètement, quoi. C'est-à-dire vraiment, enfin, comme on déballerait ses tripes, sauf que là, il ne s'agit pas des siennes, mais comme on déballerait ses tripes sur la table. Et ça, je trouve que c'est un geste d'éditeur, mais évidemment aussi un geste d'auteur. C'est comment oser, quand on a été formé à la lecture par les auteurs du nouveau roman, comment on a grandi avec ça, comment oser ensuite donner un tel coup de barre à gauche, c'est-à-dire du côté du politique, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui me sidère, parce qu'en France, résultat, maintenant, on a eu, peut-être que ça change depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, on a eu très très peur de la politique à un moment. Il y a eu un retour, c'est-à-dire qu'on s'en est beaucoup pris à l'héritage chartrien, etc. Et là, tout d'un coup, on était face à un auteur, notamment, donc face à Volodine, très clairement, et en même temps tout en jouant aussi avec la dimension de fable, etc., mais qui très clairement posait la question idéologique dans ses livres. Et ça, je trouve que c'est un geste d'une force époustouflante. Et moi, je sais que j'ai le sentiment de venir après cette génération-là, et que, donc pour moi, opérer une synthèse entre différentes possibilités pour le livre, c'est beaucoup plus simple. Parce que je suis à la fois lecteur du nouveau roman et je suis à la fois lecteur de cette génération des années 80 qui a réussi à rééquilibrer un petit peu les choses, quoi. Et donc moi j'ai l'impression que même si ma génération arrive un jour à écrire de grands livres, j'ai le sentiment que ça aura peut-être été plus facile pour nous que pour ces auteurs-là, quoi, qui ont eu à se débattre peut-être d'une manière beaucoup plus considérable que nous.
Alors, j'ai une question justement qui d'une certaine façon fait suite à ce que vous venez de dire. Dans votre roman Le Dehors ou la migration détruite, il est question, si on peut dire, de la guerre d'Algérie, qui est évidemment quelque chose que vous n'avez pas connu par définition, vous n'étiez pas né.
Si on part du bardo, peut-être que...
Et je me rappelle qu'à un colloque sur la guerre d'Algérie, il me semble me rappeler que vous aviez été un peu interpellé sur le mode, mais peut-on écrire sur une période qu'on n'a pas vécue, une période qui n'est pas ce que nous connaissons? Mais pour moi, ça pose la question, et c'est aussi une question que pose de façon cruciale l'œuvre de Volodine, et je reviendrai après à Augustinier, parce que là aussi c'est un peu la même question. Finalement, que veut dire avoir vécu? C'est-à-dire, est-on enfermé dans les bornes chronologiques et autres de sa vie, et ne peut-on écrire que sur ce qu'on a vécu personnellement, ce qui serait quand même extrêmement restrictif? Et alors, j'ai l'air de m'éloigner du sujet, mais il me semble que dans ce que vous venez de dire sur le frayage qu'a procuré la génération du nouveau roman et la génération qui a suivi, il me semble que j'emploie le mot de frayage parce que d'une certaine façon, ça vous a frayé la voie, c'est un peu ce que vous suggérez. Alors, par rapport à ce roman, et puis aussi, il faudrait parler d'anima motrix, mais parce qu'il y a Maria Soudaïeva qui fait une petite apparition. Je vous rends le micro.
Ça c'est une question effectivement maintenant qu'on nous la pose, je crois, assez souvent, et c'est une question qui est un petit peu non pas nulle et non avenue, mais qui est étrange, parce qu'on n'a jamais demandé à Flaubert s'il avait vécu à Carthage au 4e siècle pour pouvoir écrire Salammbô. Donc effectivement, par contre, maintenant c'est une question qu'on nous pose tout le temps et qui est très étrange, parce qu'en fait elle repose sur l'idée que la fiction n'a pas le droit à la vérité, c'est-à-dire que la fiction n'est pas capable d'aller traquer la vérité. Il faudrait systématiquement que avoir vécu ça, l'avoir expérimenté dans sa chair pour pour prétendre dire quelque chose de pertinent, ça me semble évidemment ahurissant, précisément parce que ça conteste à la littérature cette capacité-là. Juste une anecdote très très rapide, je suis pas bien sûr de moi, mais je crois que c'est Jean Lacouture qui racontait ça. Il est parti en Indochine en tant que soldat. Or, il était déjà assez sensible aux questions politiques et notamment aux questions coloniales. Et sur place, il essayait d'utiliser tout le temps qu'il avait pour comprendre un petit peu comment les gens vivaient sur place et notamment vivaient cette guerre coloniale, etc. Et puis, au bout de 2 ans, il est rentré en France et il avait le sentiment d'avoir fait un petit peu le tour de la question et d'avoir un point de vue sur tout ça. Et au moment où il rentre en France, Aron fait paraître un texte de circonstance. Lacouture lit ça, il se rend compte qu'il n'a rien compris à ce qu'il a vu sur place et que Aron, qui n'a pas mis les pieds en Indochine, a tout compris. Il a tout compris. Et là, à ce moment-là, Lacouture réorganise tout ce qu'il a vu et il se rend compte que oui, c'est Aron qui a raison. Donc ces histoires-là d'expérience sont complètement à côté de la plaque. En l'occurrence, pour le dehors, qui effectivement tourne autour de la guerre d'Algérie et des années 50-60, je me suis même pas tant documenté que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il suffisait à certains moments de tomber sur la bonne anecdote. C'est-à-dire celle qui manifestement fonctionne un petit peu, vous savez, comme un morceau d'uranium qui émet, qui phosphore le. Tout d'un coup, au fil des lectures, vous survolez certaines choses et puis hop, là, il y a une anecdote incroyable et vous dites ça me suffit. À partir de ça, il y a quelque chose qui va se développer. Et ensuite, c'est presque en aval que je fais un travail de documentation. C'est pour vérifier que mes intuitions m'ont pas emmené, le travail de l'écriture m'a pas emmené beaucoup trop loin. Par exemple, il y a un dernier long chapitre qui fait une quarantaine de pages et qui se passe le jour de l'occupation du théâtre de l'Odéon. Et ben, ce chapitre est né d'un tout petit encadré dans un Paris Match de mai 68 et où le journaliste de Paris Match dit que Jean-Louis Barrault regardait les étudiants rentrer dans le théâtre de l'Odéon depuis le restaurant de poisson qui est sur la place du théâtre de l'Odéon. Et Jean-Louis Barrault, d'après ce journaliste, disait « Quand même, c'est bête, si c'était un soir de représentation, quelle recette on aurait ?» Et moi, je tombe sur ça, je me renseigne pas plus que ça, je connais un peu la vie, l'œuvre de Jean-Louis Barrault et tout, et je me dis « Ça, c'est impossible. Ça, c'est complètement crétin, c'est un truc de journaliste, c'est impossible.
C'est Paris Match.
C'est Paris Match, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est juste, c'est pas possible. Ce truc-là, ce hiatus-là, cette impossibilité-là, ça m'a suffi. C'est-à-dire qu'ensuite, je l'ai étiré sur 40 pages, et je crois que ces 40 pages fonctionnent. Ensuite, l'idée qu'il y aurait des sujets qui seraient interdits à certaines personnes sous prétexte qu'ils sont hommes et non pas femmes, non, c'est juste insupportable aussi, quoi. C'est une façon de conditionner les discours. Tout à l'heure, j'entendais que Antoine Volodine a été un petit peu houspillé, c'est sans doute pas le mot, en Russie, justement, peut-être par des gens qui ont vécu ça et qui s'étonnaient que quelqu'un d'autre s'en empare. Mais quand on voit, par exemple, là, il y a 15 jours, dans la ville natale de Staline, la statue de Staline a été déboulonnée. Ils l'ont fait de nuit à 5h du matin, parce que ça faisait 10 ans que c'était en débat. Et en fait, il y avait toujours une quantité importante de la population qui refusait que cette statue soit enlevée. Quand on est face à cette situation-là, on se dit ces gens-là sont manifestement encore en prison. Et donc, il n'y a que de l'extérieur qu'on va pouvoir aussi en dire quelque chose, quoi. C'est-à-dire que il y a une parole qui est impossible, puisqu'il faut encore complètement corps avec l'événement et avec cette forme-là d'emprisonnement. Donc, pour le coup, c'est seulement de l'extérieur, c'est seulement une génération d'après, souvent, quand il y a eu des grands traumatismes dans l'histoire d'un pays, que ce soit, par exemple, la collaboration en France ou ensuite la guerre d'Algérie, il a fallu systématiquement attendre au moins une ou deux générations, parce que sur le moment, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on est allé tellement loin dans l'horreur, dans la compromission, etc., que si on examine ça tout de suite, on explose. C'est pour ça que De Gaulle a vite dit que toute la France avait été résistante et a réembauché quantité de collaborateurs. Et c'est pour ça qu'après la guerre d'Algérie, il y a eu des lois d'amnistie qui ont été votées aussi tout de suite. C'est parce que il faut attendre. Et résultat, la génération d'après, mais on retombe sur le truc littéraire que je disais tout à l'heure, la génération d'après, elle arrive et oui, c'est plus simple de parler de la guerre d'Algérie aujourd'hui, alors qu'on en subit encore les conséquences, mais c'est quand même beaucoup plus simple que d'en parler sur le moment.
Alors, je voudrais revenir. Vous n'avez pas parlé de votre propre roman, sinon indirectement. Je voudrais revenir en particulier au roman qui s'appelle Au Costeignier. Je vous laisserai le soin d'expliquer le titre, parce que il me semble que le bon, c'est un roman très complexe sur lequel il y aurait beaucoup à dire, mais il me semble que la trame même du départ a quelque chose d'extrêmement volodinien, puisque nous sommes dans une situation carcérale. Il y a un prisonnier qui est torturé, et il y a d'ailleurs un dédoublement qui peut faire penser à l'histoire du viol de Maria Samarcande, vous vous rappelez cette histoire dans Volodine. Donc on ne sait pas si c'est le personnage qui dit je, qui n'est pas en réalité torturé et qui ne s'est pas dédoublé lui-même pour éviter de vivre de façon frontale ce qui se passe. Enfin, il y a je, il y a le personnage qu'on appelle 53. Hein, voilà. Et donc périodiquement, celui qui s'appelle 53 est emmené par des gardes, qui sont d'ailleurs des condors, si je me souviens bien. Enfin, c'est des... Bon, semble-t-il.
Moi, j'ai oublié, vous savez.
Et il est emmené dans des souterrains, dans des caves, et il est torturé. Et il est torturé, évidemment, parce qu'on lui demande de dire des choses. Et au fur et à mesure que s'opère la descente vers la profondeur, il se dépouille volontairement de tous ses souvenirs réels et il se fait des souvenirs mensongers pour pouvoir dire à ses bourreaux des choses fausses. Et à un moment donné, alors je vais essayer de retrouver la citation parce que moi aussi j'ai écrit beaucoup de pages, alors j'espère que je vais la retrouver quand même assez vite, mais à un moment donné il se pose la question, il en vient à se demander si, je cite, si ça n'était pas ces histoires qu'il racontait si facilement, si abondamment dans la cave, qui étaient la vérité, plutôt que celles qu'il arrachait si péniblement à l'oubli, avec Moned, c'est le narrateur, dans notre cellule. Autrement dit, on a une opération de descente vers les profondeurs et puis de remontée vers le jour, du moins vers la cellule. Donc il essaye d'abandonner ses vrais souvenirs de façon à pouvoir mentir au bourreau. Et puis quand il remonte péniblement, il essaye de récupérer les vrais souvenirs qu'il a accrochés dans l'espace, si on peut dire comme ça. Et il en vient à se demander si ce qu'il raconte, où est le vrai finalement. Ça renvoie tout à fait à ce que vous disiez tout à l'heure sur les incertitudes de la narration, sur les récits emboîtés, etc. Alors moi j'aimerais bien que vous parliez un peu de ce roman, parce que moi quand je l'ai lu, j'ai pas du tout vu un roman sous influence, comme on pourrait dire, mais j'ai senti un roman qui était où il y avait quantité d'échos, quantité de... Encore une fois, je veux pas parler d'influence parce que c'est pas le cas, mais ni de vampirisation, ni quoi que ce soit, mais j'ai eu l'impression de quelque chose qui évoluait en parallèle ou en écho ou en harmonie, je sais pas ce que vous en pensez.
Avec l'œuvre de Volodine.
Vous l'avez peut-être pas relu récemment.
Non, je l'ai pas relu récemment. Mais oui, des échos sûrement, de l'influence sûrement. Voilà, j'en veux pas. C'est sûr que ça se métabolise. Donc il y a très probablement pas quelque chose qui a été reporté directement.
Bien sûr.
Mais en revanche, voilà, que ça ait fait suc. Et que ça ait fait imaginaire et imagination, j'en doute pas, sûrement. Après, oui, c'était dans ce roman-là, c'était de la construction m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était le rapport, c'est non sans relation avec la question qui était posée juste à l'instant. Là. Moi, il me semble que la littérature fait de la littérature. Et que quand on va présenter comme ça un auteur, soit une espèce de fausse légitimité par le vécu, soit je sais pas quoi, qui a un rapport avec l'histoire, avec un propos historique, je crois qu'il y a quelque chose qui est un piège.
Tout à fait.
Et justement, voilà, c'est aussi ce que je trouve puissant et qui fait une espèce d'écho juste chez moi, c'est que quand vous enlevez, comme fait Antoine Volodine, quand vous enlevez le contexte, quand vous faites cette espèce de non-netteté historique et géographique, vous désignez la littérature, vous désignez un autre rapport au texte, qui est une reconnaissance au sens militaire du terme, c'est-à-dire reconnaître un terrain. Donc voilà, aveuglément là. Et non pas reconnaître ce qu'on a déjà connu et donc ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire l'histoire telle qu'on s'en est déjà fait une idée, parce qu'évidemment on est vierge de rien, on n'est même pas vierge des événements qu'on a pas livresquement connus, je veux dire, on est évidemment pris dans cette connaissance que nous partageons de plus en plus, puisque les moyens nous le permettent encore plus qu'avant. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que je crois que la littérature fait de l'oubli. Et je crois que c'est ça qui est intéressant à travailler. Et que l'oubli est une partie active de la mémoire. Et que nous, quand on fait des textes d'imagination, quand on est dans l'imagination et non pas dans une documentation rigoureuse et historique et qui s'inscrit dans un rapport justement de transmission d'une certaine réalité argumentée, étayée, etc. Nous, quand on est dans l'imagination, on est en train de transmettre autre chose. Et peut-être ce qu'on est en train de transmettre, c'est ça, c'est cette vertu de l'oubli, qui n'est pas un effacement total, et qui est quelque chose qui fait synthèse, qui est quelque chose qui va métamorphoser un traumatisme collectif, une blessure impossible à vivre et qui rend la vie impossible, qui va la peu à peu la transformer. C'est Nicole Laureau qui a vraiment fait ce travail complètement fascinant sur le serment athénien, le serment de l'oubli. C'est-à-dire que on prête serment de ne pas revenir sur les malheurs du passé, et c'est ça qui peut faire la cité. Sinon, la rage est active. Et donc, moi, ma conviction, voilà, quitte à me tromper, je le signe, c'est de penser que nous, notre boulot de littéraire, de gens qui travaillons sur des récits d'imagination, c'est de penser ça. Et c'est d'essayer d'explorer qu'est-ce que c'est que cet oubli, qu'est-ce que c'est l'oubli collectif qui n'est pas une espèce de manipulation en gomme sur la photo, le type qui nous gêne évidemment. Et donc encore une fois, ma conviction, c'est que ça passe par justement un retranchement des éléments de contexte pour un travail le plus rigoureux possible sur des éléments de forme. Parce que les formes sont des creusets, et que ces creusets vont pouvoir être habités par des récits qui appartiennent à des contextes différents. Enfin, voilà.
Un travail, et ça je crois que c'est votre cas à tous les deux, même si c'est avec des modalités différentes, un travail qui est justement de se décaler par rapport à un référent historique trop précis, disons. Et justement, vous avez très bien montré tout à l'heure tout l'aspect j'allais dire de forçage, mais c'est pas le terme qui convient, enfin de décalage vers des imaginaires par le biais, par toutes sortes de biais qui permettent justement de ne pas être dans le reflet ou dans la mimésis, mais d'être dans autre chose, dans l'imaginaire. Et justement, pour revenir un petit peu en arrière, j'ai été très frappée de ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'épopée, parce que je crois que ça marche tout à fait, hein. Et c'est une épopée qu'on pourrait dire crépusculaire. J'ai beaucoup aimé que vous ayez dit c'est après la mort du roi Arthur, parce que d'une certaine façon c'est notre situation historique, hein, je veux dire, et on est dans une espèce d'après, et c'est dans cet après que nous sommes, et qu'est-ce qu'on en fait, hein, qu'est-ce qu'on fait de la littérature, et qu'est-ce qu'on fait de cette situation historique, mais pas seulement historique, dans laquelle on est, hein. Bon, c'est la question à 1000 balles qui fait qu'on ne peut pas y répondre.
Mais le fait de dire que nous sommes dans cette situation-là est une certaine lecture.
Bien sûr.
Comme disait Arnaud tout à l'heure, on peut très bien imaginer que des gens d'une toute autre culture, d'une toute autre planète, peut-être, auraient une autre interprétation de notre situation.
Sans doute.
Ou d'un tout autre temps.
Et sans même aller effectivement sur une autre planète, Arnaud le rappelait tout à l'heure, il suffisait peut-être d'aller à Moscou pour entendre une autre histoire, et enfin une histoire qu'on pouvait croire être la même, mais qui était, où les focales étaient posées différemment. Hein, ça c'est évident, oui. Et bon, vous avez également parlé, ça c'était important, du cryptage de l'expérience d'écrire. C'est-à-dire, bon, là, on change un petit peu de sujet, mais le fait que, constamment dans l'œuvre de Volodine, même si c'est avec des matériaux différents, il y a effectivement cette présence constante de l'expérience d'écrire, bon, qui est distribuée, par exemple, dans le dernier texte écrivain, ça s'est mis en scène de façon beaucoup plus frontale, mais finalement, c'est vrai dans Lisbonne, dernière marge, c'était déjà vrai dans la biographie comparée de Jorian Murgrave. Et effectivement, il a été question du rapport difficile au destinataire. Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus pour tous les la question s'adresse à tous les deux, bien sûr.
Si j'entends bien si je comprends bien votre question, ça touche à un des points qui me fascine beaucoup. Parce que je vous avouerai que j'ai eu justement dans ma lecture, notamment par exemple de Lisbonne Dernière Marge, un peu comme avec certains livres de Pynchon, j'ai passé peut-être le premier tiers du livre à essayer de tout faire, ou certains passages de Claude Simon, quand il s'agit par exemple de biographie familiale, etc., de comprendre qui est qui, etc. J'ai passé un temps fou, mais j'ai peut-être des fichiers Word qui font 30 pages, à essayer de comprendre justement comment tel passage fonctionne avec tel autre, etc. Mm-hmm. En fait, pour au bout du compte, avoir le sentiment, mais peut-être que justement vous me corrigeriez, que ça ne fonctionnait pas, mais que c'était volontairement que justement les pièces du puzzle ne s'imbriquaient pas parfaitement, quoi. Et qu'au bout du compte, tel personnage avait définitivement différents éclats et que tout ça ne formait pas un personnage.
Oui, c'est fait pour ne pas fonctionner.
Voilà. Cette audace-là, je la trouve terrible et pour le coup, elle me stimule énormément. C'est-à-dire que moi, j'aurais tendance à vouloir pacifier beaucoup les choses. C'est-à-dire que même dans un contexte ou même pour un livre qui prétendrait s'approcher de choses brûlantes, bouleversantes, terribles politiquement, etc., mon réflexe pendant peut-être toute une partie de l'écriture du livre sera d'essayer en fait de les pacifier sur les choses-là en faisant que toutes les pièces du puzzle puissent s'imbriquer. Et résultat, de laisser le livre ouvert relève pour moi vraiment d'une forme de courage, en fait. Ça, c'est une chose. En fait, tout à l'heure, vous demandiez à Nicole, enfin, vous la lanciez sur la question de l'influence. Moi, je ne peux pas du tout dire ça, que mes livres sont écrits sous l'influence de ceux de Volodine. En revanche, ils fonctionnent vraiment. Vous savez, c'est la carotte qu'on place devant un âne pour qu'il avance, quoi. Je suis l'âne.
Et c'est la carotte.
Temporairement. Je le vois plus, en tout cas, dans le rôle de la carotte que de l'âne. Et je me vois beaucoup mieux dans celui de l'âne. C'est-à-dire qu'en fait, énormément de choses dans ces livres me stimulent. Par exemple, un autre là qui a été abordé par Nicole et qui a été abordé tout à l'heure dans une des communications, c'est la capacité à embrasser large. C'est par exemple, donc tout à l'heure dans la communication, il s'agissait du vocabulaire et des registres de langue, etc. C'était d'essayer un temps d'abolir toute hiérarchie à l'intérieur de ça. Mais ça peut être aussi de prétendre à un discours sur la politique ou sur l'idéologie et en même temps de parvenir à faire vivre cette phase de fabulation, etc. Alors évidemment, là, les deux sont connectés dans son travail. Mais qu'on puisse trouver tout ça à l'intérieur d'un livre est quelque chose qui, moi, me sidère et dont je suis, pour l'instant, complètement incapable. Mais qui me stimule, quoi. J'écris sous d'autres influences, mais en revanche, il y a peu d'auteurs qui m'indique autant de directions à explorer, en fait.
Mais vous n'avez pas le sentiment, avec ce puzzle qui ne marche pas, comme dans Pérec, le W qui n'arrive pas à rentrer dans la case du X, vous parlez de courage de la part de l'auteur, vous n'avez pas le sentiment, vous, en tant que lecteur de cela, que c'est une violence? C'est-à-dire, vous n'avez pas le sentiment que l'auteur vous fait violence en vous donnant des énigmes sans solution, des choses qui ne rentrent pas?
Ah non, pas du tout.
Vous espérez arriver à faire violence au lecteur de la même manière?
Non, moi je cherche pas à faire violence au lecteur, jamais en fait. J'entretiens un rapport au lecteur qui est un rapport de grande
bienveillance.
bienveillance ou complicité ou donc je suis pas du tout en position de vouloir lui faire cette violence. Je placerai pas ces mots-là. Mais non, c'est oui, moi c'est, lire les autres, c'est toujours soit ça ne m'intéresse pas, soit ça me stimule en fait. Là en l'occurrence, voilà, ça se pose en termes de stimulation et je me dis. Oui, étant donné que c'est beau comme ça, je le prends pas comme une violence qui m'est faite, quoi. Mmh. C'est-à-dire que, en tant que lecteur, je n'attendais pas à ce que toutes les pièces s'imbriquent. D'accord. C'est juste, j'essayais de le recomposer pour voir si c'était le cas, s'il y avait, et une fois que je constate que ça n'est pas le cas, je comprends que le mystère se déplace, quoi, que le mystère était pas juste dans la capacité du lecteur à recomposer le schéma global. Mmh. Et dans ce cas-là, je passe, c'est comme dans les jeux vidéo, je passe à un deuxième niveau, quoi. Et là, j'accède à d'autres formes de beauté. C'est-à-dire que la beauté n'était pas exactement là où je pensais qu'elle pouvait se trouver. C'est-à-dire dans le moment où je vais recomposer le truc. Mais elle est ailleurs. Et dans ce cas-là, j'ai vraiment le sentiment que l'auteur m'accompagne, quoi,
jusqu'au game over. Ouais. Et alors, Maria Soudaïeva au milieu de Anima Motrix. C'est un hommage, un clin d'œil.
Oui, c'est un hommage post-exotique. Non, mais c'est vraiment juste en passant comme ça. Oui,
mais justement, c'est ça qui est surprenant, c'est que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas du tout dans l'ensemble du livre. C'est un hommage, mais
bon, qui pourrait fonctionner un tout petit peu au sens où il s'agit d'un personnage paranoïaque qui passe son temps à essayer de trouver des aliments pour sa paranoïa et qui est donc dans une situation d'enfermement et dans des formes de schizophrénie, voilà, qui pouvait justifier, même si ça se joue de manière totalement différente de ce qui se passe dans les livres de Volodine, voilà, qui pouvait justifier à un moment d'indiquer, voilà, c'est un clin d'œil complice un hommage très discret, mais je fais ça presque dans tous mes livres parce que je par exemple pour la guerre d'Algérie, je l'ai fait. La guerre d'Algérie, encore aujourd'hui, dès qu'il y a un livre qui paraît sur la guerre d'Algérie, on dit « enfin, le tabou de la guerre d'Algérie qui saute », etc. C'est tout le temps. Mais oui, même les journalistes qui ont écrit sur mes romans continuent de le faire dès qu'il y a un autre roman qui sort sur la guerre d'Algérie. Donc,
ils l'ont fait pour Mauvigné.
Voilà, bien sûr. Enfin, l'indicible. Incroyable, c'est que pourtant je pensais avoir pris les devants, c'est-à-dire que j'avais fait des clins d'œil aux 7 ou 8 grands livres écrits en langue française sur la guerre d'Algérie. À Guyotat, à Pérec, à Claire Etcherelli, enfin à des trucs très différents, mais peu importe, je voulais marquer leur présence à l'intérieur de mon livre pour surtout pas prétendre, enfin, voilà, pour pas tomber dans ce panneau-là de dire, ah, voilà, j'arrive, je déboule et je vais vous donner ma vérité sur la guerre d'Algérie et je vais faire entendre à l'intérieur de la phrase française les fracas de la guerre d'Algérie, quoi. Donc là, Maria Soudaïeva, c'était un petit peu de la même façon, quoi. C'était dire, je n'écris pas nulle part, j'écris juché sur des livres, sur d'autres choses, sur.
Tout à fait. Oui, d'ailleurs, je suis contente que vous citiez Guyotat et Pérec sur la guerre d'Algérie, parce que c'est vrai que sur la guerre d'Algérie, il y a eu énormément de littérature, mais peu de littérature adéquate, peut-être. Mmh. Et Catherine Brun, qui a travaillé sur Guyotat, est en train de lancer un grand programme de recherche sur la guerre d'Algérie, qui commence par essayer de détruire le truisme qui consiste à dire... Il n'y a rien sur la guerre d'Algérie.
Totalement
ben non,
fou.
Ça fait un moment que ça.
Et ces livres-là sont parus tout de suite.
Bien sûr.
Tout de suite. Donc on a envie qu'il y ait un tabou autour de la guerre d'Algérie. Un tabou qui pèserait sur la littérature particulièrement. Quoi.
Tout à fait. Alors, pour revenir aussi au. Bon, là, c'était un peu le rapport difficile au destinataire, mais Nicole n'a pas répondu sur la question.
Sur le
rapport difficile au destinataire.
Le rapport difficile au destinataire.
Ah, c'est de vous, hein. C'est de vous, hein, Julie.
Un rapport paradoxal, peut-être, ouais.
Oui. Non, pour redonner le contexte, c'est quand vous avez parlé de la question du cryptage de l'écriture dans les textes de Volodine, et c'est juste après qu'il était question de ce rapport au destinataire, qui était peut-être pas difficile, mais problématique. Enfin, j'ai noté difficile, mais... Mais là, c'était peut-être, je ne sais plus si c'était dans votre position de lectrice ou dans votre position d'écrivain. Parce que quand on écrit, on se fait quand même toujours une image du destinataire réel ou potentiel. Donc, est-ce que c'était cela qui était à l'arrière-plan ? Non ?
Je ne sais pas. Ben, les images là qui me reviennent dans la tête, c'est plutôt le fait que ce qui me semble être à l'image de l'écriture est porté aussi par les personnages de Volodine, mm-hmm. qui se trouvent dans des situations inquisitoriales. Donc tout ce qui est dit est demandé, répondu, mm-hmm. mis en doute, et ainsi de suite, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire que la personne à qui on destine le récit est à la fois le pouvoir qui le commande, impérativement, mais qui le commande selon des modalités telles que ce récit ne pourra jamais satisfaire la commande. Mm-hmm. Et à la fois... donc c'est un rapport, évidemment, c'est un rapport de torsionnaire, voilà, comme dans Beckett, comme dans Commencer, quoi. Il y a vraiment cette espèce de rapport de bourreau, comme si non seulement ceux qui, le destinataire, c'est-à-dire l'instance à qui on destine le récit, mais aussi le récit même, le texte même, etc., tout ça a été cette espèce de bourreau qui vous presse, là... Bon, voilà. Alors après, moi, je trouve que le destinataire, ça se confond avec ça. C'est-à-dire que... Mais ça, je sais pas, parce que c'est vraiment très flou, et puis c'est difficile de se regarder pédaler. Enfin, voilà, je sais pas si je le souhaite tant que ça, quoi. Mais moi, de la perception comme ça, très, très opaque et partielle que je peux en avoir, j'ai l'impression que le destinataire, je peux pas l'envisager. C'est pas possible. C'est exclusif, hein, de... ce que je peux engager de tout dans un texte, le fait d'envisager un destinataire, qui sera forcément voilà, un étranger, ou je ne sais pas, voilà. Donc au fond, peut-être que ce qui peut se passer, c'est que c'est le texte, c'est comme si le texte était destinataire du texte, quoi. Il y a quelque chose d'un peu étrange qui se passe comme ça. Et donc c'est là la difficulté, enfin, ou je sais pas, ou plutôt le paradoxe, peut-être tout est difficile sûrement, mais peut-être le paradoxe, quoi. Le paradoxe, c'est de produire ce texte à destination de cet écrit là qui est en train de se faire. Là, je sais pas trop quoi dire. Je sens bien que c'est confus. On m'a pas donné de café, c'est pour ça.
Ah, on vous en a proposé. Mais alors, il y a une autre question que je voulais poser à tous les deux. C'est que, bon, dans votre intervention, chacun de vous a montré qu'il était en dialogue avec différents auteurs, Beckett, Lowry, enfin plein d'autres. Et par ailleurs, j'ai remarqué que, notamment dans Bardom des Ombres, chez vous, il y a aussi un dialogue avec les plasticiens. Hein, il y a Sophie Kahl, il y a Boltanski et d'autres. Et alors, je me demandais si, dans les lectures que l'un et l'autre vous pouvez faire de l'œuvre de Volodine, est-ce que pour vous, ce serait le rapport aux images serait du même ordre ? Autrement dit, qu'en est-il, quand on lit, qu'en est-il de la visualisation intérieure que l'on peut faire des images qui sont proposées par l'auteur ? C'est-à-dire, c'est peut-être un peu confus la façon dont je le présente, mais quand on lit un texte, qu'il y ait des descriptions ou non, il y a tout de suite des images qui viennent mentalement. Et voilà, qu'est-ce qui se passe ? Et est-ce que, par exemple, les plasticiens interviennent ou comment ? Enfin, voilà, c'était un peu ça la question.
Pour le coup, moi, je trouve toute une partie de l'humour de Volodine, il se trouve là, quoi. C'est-à-dire que quand un nom est donné, qui se présente comme un nom d'individu, inévitablement, effectivement, on projette chacun quelque chose, un corps, et puis la ligne suivante, le paragraphe suivant, le chapitre suivant, on apprend que non, en fait, c'est juste un groupe, mais ça n'est pas un individu. Et donc, en permanence, il y a des images qui sont posées, puis que le texte explose. Et donc là, il y a quelque chose de très joueur, mais qui pour moi, même pourtant, quand il s'agit d'horreur, parce qu'il s'agit de répression policière, etc., sur le plan juste de la lecture, il y a une sorte de connivence, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a de l'horreur, et puis en même temps, il y a de la connivence. Et je trouve que dans le mouvement de la lecture, ça fait que c'est une lecture qui est très chahutante, quoi. Pour le coup, je citais François Bon tout à l'heure, et qui m'a, dans un premier temps, agrippé, d'abord par le rythme de ses phrases, quoi. La façon qu'il a de travailler le français. En apparence, les livres de Volodine sont dans un français plus classique, en apparence. Par rapport à ce que peut faire François Bon. Mais justement, ce qui me sidère, c'est que ce calme apparent, justement, passe son temps ensuite à exploser. Vous savez, je ne sais plus quel film se termine, c'est Docteur Folamour qui se termine en explosion, qui n'arrête pas d'exploser. Voilà, etc. Mais là, c'est un petit peu l'effet que ça me fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est lancé dans le livre, Dès qu'on pense pouvoir avoir trouvé un sol sur lequel s'appuyer, bah, immédiatement, non, c'est une chose trappe. Immédiatement, non, la main passe à travers le personnage, etc. etc. Ça, c'est, voilà, ça, c'est quelque chose que je trouve très, très sidérant, quoi, très puissant. Pour le coup, j'aurais trop souvent tendance, pareil, là encore une fois, je ne suis pas assez joueur, j'aurais trop souvent tendance à vouloir poser des corps et à essayer de les habiter et à essayer de les faire sentir dans leur épaisseur, etc. Et je sais qu'en termes d'imaginaire, en termes de première intention, je n'ose pas, jouer comme ça. Mais ça me, pourtant, ça me sidère quand, en tant que lecteur, justement, un auteur le fait.
Toujours la carotte devant et la
pareil.
Et Nicole ?
Non, pour moi, je au fond, c'est une scène nue avec cette chanteuse, voilà, seule, quoi. Et c'est l'évocation par la voix. Pour moi, c'est vraiment ça. À propos de musique, moi j'ai entendu ce qu'a fait, je me souviens plus de son prénom, par contre, Denis Fragerman, avec ce disque qui s'appelle Palo Alto, où un morceau porte le titre d'Alto Solo. Et que, voilà, c'est ça aussi, c'est-à-dire que la chose se passe dans la voix de la chanteuse. Dans les voix de la chanteuse, parce que mais il y a quelque chose d'autre qui se passe et qui est musical. Et d'ailleurs c'est une phrase de Volodin qui l'écrit, où il dit qu'au fond, l'auteur qui porte je ne sais quel nom, je ne sais plus si c'est Bruegel ou je ne sais plus lequel, qui dit qu'il est en train d'essayer de faire des récits, mais pour ça, il prend des harmoniques, et c'est ce terme qui m'a frappée. Des harmoniques de son existence. Et il y a un travail sur les harmoniques comme ça dans la musique de Fragerman ou de Palo Alto comme ça. Bon. Et donc il y a pour moi, je vous fais mon film. Il y a cette scène nue, ce corps qui n'est présent qu'en énergie. Il n'y a pas un costume. Voilà, c'est l'énergie qui est portée par le corps et tout se passe dans la voix. Et aussi des choses qui sont extrêmement riches, mais comment dire, qu'on peut même pas prévoir, quoi, qui sont imprévisibles, qui sont des événements et qui sont des accidents et qui sont les harmoniques de ce chant et qui font aussi la musique. Donc j'ai pas d'image. C'est assez curieux d'ailleurs.
Oui, c'est étonnant parce que justement je pensais à Barnum des ombres, parce que là justement il y a un dialogue très fort, même s'il est sous-jacent avec des plasticiens.
Ah et
l'un des personnages est un peintre.
Oui.
Mais je peux peut-être arriver à comprendre qu'il n'y ait pas d'image. C'est-à-dire que passion pour la nomination qu'il y a chez Volodin, elle peut ressembler un petit peu à ce qu'il y a aussi chez Novarina, c'est-à-dire dans la capacité qu'a Novarina à faire sortir comme ça des... alors, c'est pas des personnages, justement. Il y a la même passion pour la nomination. Et dans le cas de Novarina, justement, il l'explique bien. Pour le coup, c'est par refus du personnage, justement. Quoi. C'est par refus du rôle qui a tant structuré le théâtre traditionnel, etc. Pour le coup, il y aurait un petit peu... Peut-être que cette analyse-là ou cette intention-là, elle est transposable un petit peu dans les romans de Volodine. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de créer du personnage avec de la psychologie comme on l'entendait, on l'entendait au sens classique. Mais bien au contraire d'essayer de mettre en place des espèces de zones de turbulence. Plutôt qu'un personnage, ce sera une zone de turbulence, quoi, et qui va être justement traversée comme ça par des forces parfois contradictoires, parfois au contraire qui vont dans le même sens. Par exemple, moi j'ai été frappé par Will Scheidman dans Les Anges mineurs. Voilà, qui a plus du tout un corps humain, qui est une espèce de tas de chiffons, on dit à certains moments, etc. Ça pour moi, ça c'était très significatif. C'est-à-dire que si quelque chose en lui d'un personnage subsiste, c'est peut-être parce qu'il est traversé par des forces, mais plus du tout parce qu'il a allure humaine, quoi. Et donc ça empêche quand même en grande partie la représentation. Bon, là en l'occurrence, un tas de chiffons, c'est assez visuel, donc on a peut-être tendance à construire une image. Mais donc je peux comprendre que peut-être le texte résiste en fait à notre petit théâtre mental, quoi. C'est que là, il s'agit enfin d'autre chose, quoi. Les points d'appui du livre sont à trouver ailleurs que dans le fait de vouloir copier d'une manière mimétique la vie de tous les jours, avec les corps de tous les jours, etc. C'est bien de montrer des corps qui sont tellement travaillés par la politique qu'ils en deviennent inhumains, quoi.
Est-ce que le corpus a un mot à dire ?
J'aurais beaucoup à dire, mais tout a été tellement magnifiquement dit.
Est-ce que... Oui, Frédéric ?
Non, c'est vraiment frappant cette façon que vous n'êtes pas marqué par les images, mais je me demande, vous êtes focalisé sur les corps ou sur les noms de personnages, et sur les espaces ou toutes ces scènes d'exploration dont on a une série de variations complètement vertigineuses d'une œuvre à l'autre, ou même d'un ara à l'autre, pour les environnements que vous citiez à l'instant. Voilà, est-ce que ces scènes d'exploration, enfin, que ce soit dans l'espace ou dans le temps, enfin, vous avez quand même dit que vous étiez frappé par cette déréalisation par rapport à l'espace historique que tout le monde connaît, fabrique, dont tout le monde fabrique une connaissance. Est-ce que justement cette façon de nous transporter dans un ailleurs, ça vous laisse pas des images qui peuvent aussi être des... susciter quelque chose, un écho dans ce que vous écrivez,
Oui, ça c'est vrai que pour ce qui est des paysages, disons, oui, là par contre la boîte à images est tout de suite nourrie, quoi. Ça fonctionnerait pas comme pour les personnages. On a l'impression, mais c'est très trompeur aussi, parce que vous savez, des fois il suffit d'un mot pour immédiatement dévier, se construire des images qui en fait sont sans rapport avec celles que propose le texte, quoi. Par exemple, Mathias Sénard, pour La Perfection du tir, son premier roman, pour lui, dans sa tête, c'était sans ambiguïté à Sarajevo, alors que pour tous les lecteurs, c'était à Beyrouth. Parce qu'il y avait 2-3 termes d'arabe, ben oui, mais on parle aussi arabe à Sarajevo, et donc en fait là il y avait une incompréhension qui était assez amusante. Moi par exemple pour revenir au dehors, le premier roman, à un moment je décris la manif du 17 octobre 61, enfin pendant 3 chapitres, et à un moment je parle du métro, et donc pour tout le monde c'était Sharon. Alors ça, c'était très significatif historiquement, c'était hyper révélateur, parce que Sharon, c'est des morts français, donc ça a beaucoup plus marqué voilà. Mais voilà, donc il suffit des fois d'un mot, et là, c'est évidemment pareil aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on a le sentiment de connaître un petit peu ces territoires-là, alors, et on oublie qu'ils sont mis en fable, et donc on y plaque effectivement des images que nous donnent peut-être les informations, que nous donnent d'autres livres. Donc c'est trompeur, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a ces images-là qui apparaissent, étant donné qu'on voit bien quel est l'horizon de ces livres, on se dit qu'il faudrait systématiquement les passer à la question. C'est un peu malheureux. Les passer à la question, ces images-là, quoi, ces représentations qu'on se fait, quoi, parce qu'elles sont certainement à chaque fois vraiment très fragiles.
Pour rebondir sur ce que tu dis, il y a aussi un travail pareil qui me passionne complètement, c'est le travail sur les lieux communs. C'est-à-dire que ces images-là, pour moi, elles fonctionnent comme des lieux communs, au sens plein du terme lieu commun, c'est-à-dire des lieux dont l'évocation nous est commune. Et donc, voilà, ça fait déplacement du récit dans certains univers, mais au fond, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas tellement la construction du décor ou du paysage, etc., c'est d'aller m'emparer de ce lieu commun que je vais utiliser moi-même comme un lieu commun pour construire l'univers dans lequel me transporte ce récit. Et voilà, et ça aussi, je trouve que ça fait partie de l'écriture seconde, quoi. c'est-à-dire qu'on fait raconter par d'autres auteurs, etc. Et bien là, c'est pareil, au fond, au lieu de travailler seulement au niveau du mot, au niveau de la phrase, etc., on va travailler aussi au niveau des lieux, comme une sorte de vocabulaire pour construire une grammaire un peu particulière, mais voilà, que le lecteur qui partage nos représentations mentales ben vont partager aussi, précisément. Voilà.
Et c'est vrai que par exemple, je sais pas, les passages de frontières, par exemple, d'Anima Motrice, même si bon, on n'a pas forcément les mêmes frontières, mais c'est vrai que ça évoque tout de suite, peut-être pas des paysages géographiques précis, mais des sensations dans l'espace, en tout cas certainement. Je pense que c'est ça un peu l'équivalent. Et ça, ça peut fonctionner pour tous les lecteurs. Là, je retrouve l'idée de lieu commun, c'est-à-dire que ça renvoie à des expériences anthropologiques fortes. Et basiques d'une certaine façon, qui font qu'on peut se comprendre et communiquer, même si on n'a pas les mêmes, exactement les mêmes topoi et tout, et tout ça. Hein,
voilà. Mais quand je disais que ça allait. Que c'est dynamité tout le temps, par exemple dans Alto Solo, donc on apprend à vivre au début du livre avec ces personnages oiseaux, mais ensuite au fil de la lecture, on pourrait avoir tendance un peu à l'oublier. Et moi, je me souviens très bien être arrivé donc à la scène de la préparation du concert, à très très bien voir cette grande place où il va y avoir d'un côté le cirque, de l'autre côté le cordon de sécurité, et puis la montée des marches pour aller jusqu'au concert. Et là, à ce moment-là, pour moi, il ne s'agit plus d'oiseaux du tout, quoi. Et donc, il suffit d'une seule notation pour réintroduire l'animalité de ces personnages-là, et tout d'un coup me faire exploser complètement cette représentation de place que j'avais, qui était une place tout à fait identifiable, tout à fait humaine, etc. Et cet inconfort-là, je le trouve à la fois virtuose et puis en même temps très très généreux, quoi. Ce que le texte passe son temps à faire signe dans des milliers de directions différentes, quoi. Que ce soit la fable ou quelque chose de beaucoup plus réaliste.
Est-ce qu'il y a des questions, des interventions par rapport à tout ce panel de propositions qui a été lancé ? Ou des protestations contre les thèses volodiniennes qui ont été énoncées, puisque le corpus se refuse d'intervenir ? Ben on peut continuer éventuellement la discussion autour d'un verre d'orangeade ou d'un café.
D'orangeade.
Et on remercie encore une fois nos invités.
Quelle maison. Quelle maison.
Vous savez que je
suis heureux. Je promets qu'on a mis un peu d'orangeade.